Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour.
Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment.
Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
Dans les périodes addicto porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement.
Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le sourire parce qu'on reçoit une personnalité qu'on adore avec Carole depuis 15 jours. On a eu le coup de foudre, il faut dire, pour son travail artistique. C'est joyeux, c'est coloré, c'est dynamique, c'est beau, c'est intéressant. C'est ça un peu qu'on pense, Carole ?
Oui, c'est décalé.
Exactement. Et alors bon, sans plus tarder, c'est Hortense Bellaute qu'on reçoit aujourd'hui. Bienvenue.
Eh ben, merci beaucoup.
Alors, tu es avec nous au studio parce que tu as fait une série fabuleuse qui s'appelle « Merci de ne pas toucher ». Tu vas peut-être d'ailleurs nous en dire plus pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Quelle est cette série qui vient de sortir sur Arte ? De quoi est-ce que ça parle ?
C'est une web-série en 10 épisodes de 4 minutes et qui aborde le thème de l'érotisme dans la peinture classique. Chaque épisode parle d'un tableau en particulier et j'en analyse un petit peu le contenu érotique et en même temps la valeur historique ou artistique. Et la particularité de cette série, c'est que le contexte d'analyse de ces tableaux est un contexte qui n'a rien de muséal, mais à chaque fois, on est pris dans une activité quotidienne très contemporaine et qui, a priori, n'a absolument rien à voir avec le tableau. Donc, c'est la laitière dans une salle d'escalade, l'Olympia sur un terrain de foot, Titien dans un garage moto. Et on commence tous les épisodes en se disant « Mais what the fuck, quel rapport ?»
On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, quoi.
Et l'idée, c'est qu'au fil de l'épisode, les éléments du décor contemporain me permettent en fait d'entrer en résonance avec des détails du tableau et sont des clés de lecture pour le tableau. Et on termine chaque épisode par une reconstitution en tableau vivant des in situ, avec les matériaux du bord, des tableaux anciens.
Et il faut dire que les épisodes, ils durent 4 minutes. Et ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on attend la fin avec impatience pour voir comment va être la reconstitution cette fois-ci. Parce que donc, non seulement tu es historienne de l'art, mais tu es aussi performeuse, comédienne, artiste.
Ouais, voilà, les dénominations, c'est compliqué. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art et en même temps que j'ai fait ma licence d'histoire de l'art, j'ai fait un conservatoire de théâtre dans le 19e arrondissement, ici à Paris. Et après, j'ai fait mon master en même temps que je jouais dans des petites pièces. Et puis après, j'ai fait un peu des deux. Donc des fois, j'enseignais. J'ai beaucoup enseigné l'histoire de l'art dans des écoles de design et des écoles supérieures à Paris, des trucs de marché de l'art ou quoi. Et en même temps, quand j'avais mon statut d'intermittente, je décrochais un peu, etc. Et j'alternais, je jonglais avec ça tout en sachant au fond de moi que ce que je préférais faire, c'était les deux en même temps. Et donc, j'ai fini par créer cette espèce de petit concept de conférence performée. Mm-hmm. C'est peut-être pas le bon terme, mais alors.
Mais c'est bien comme terme, voilà. On comprend tout de suite.
Alors il y a des élèves la semaine dernière qui m'ont dit en fait c'est des cours spectaculaires.
Ah, ça, j'aime bien. C'est pas mal, voilà. C'est chouette.
Donc je suis un peu maintenant une prof spectaculaire. Et en fait cette série est née d'un de ces cours spectaculaires qui avait été commandé par le Festival du film de Fès. Un festival de cinéma érotique qui se passe à Paris depuis 7-8 ans et qui m'avait demandé pour leur journée de clôture de faire une performance sur l'érotisme dans l'art classique. Et donc c'était une perf de 45 minutes où à la fois je donnais un cours d'histoire de l'art et en même temps je faisais un effeuillage et je finissais en culotte avec une culotte Batman, tout ça, wow. Et étant effectivement justifiée par tout ce que je racontais. Et ça avait hyper bien marché, et puis c'était hyper drôle parce qu'en fait, je suis à moitié à poil pendant la moitié de la perf, et puis à la fin, on vient me voir en me regardant droit dans les yeux, en me disant waouh, merci, j'ai appris plein de trucs.
Trop bien.
Et c'était hyper chouette en fait. Et ça a donné l'idée à des producteurs d'envisager une adaptation web série. Et c'est là qu'on a commencé à bosser sur ce format.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans un musée, on voit un tableau. Tu vois, on le regarde, on peut avoir des gens qui nous racontent l'histoire. Et toi, dans une image, tu nous racontes toute une histoire qui est incroyable et en plus qui est tellement décalée, qui est remise dans ce monde contemporain. C'est que du coup, on comprend tout de suite, quoi.
Ouais. Clairement.
On comprend tout, tout l'épisode. On se dit, mais c'est. En fait, c'est super. En fait, elle nous parle de sexualité. Mais ouais, pourquoi on s'est mis tous ces tabous sur le dos? Ils étaient déjà comme ça avant, quoi.
Bah, y a un petit peu de ça, effectivement. Et que c'est, l'idée, c'est que le contenu érotique de ces tableaux, c'est pas ni un alibi, ni un changement de sujet. Disons que ça fait partie de l'œuvre. Et justement, c'est plutôt. C'est très pédagogique, quoi. Et j'aime bien, si tu dis qu'on comprend tout tout de suite, c'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'effectivement, parfois, un tableau peut avoir l'air hyper loin de nous. Et il suffit de trouver les clés pour se le réapproprier, et notamment par le biais de l'érotisme et de la sexualité, de comprendre qu'en fait, ce tableau, il est assez proche de choses qu'on peut ressentir, nous.
Ouais, tout à fait, parce que souvent, quand on va dans un musée, il y a des choses qui ne nous touchent pas. Et parfois, on va se forcer aussi à comprendre un tableau. Il y a deux choses. Et à la fois, soit quelqu'un va nous en parler, et donc, du coup, ça va nous intéresser. Soit si on se retrouve juste sur une œuvre et qu'on n'a pas eu forcément de sensibilité, d'éducation là-dessus, on va avoir du mal à se dire, en fait, là, ça, c'est abstrait ou ça, c'est très réaliste, mais moi, ça me touche pas, en fait. Moi, je préfère la photo, parce que c'est pas non plus, c'est différent. Enfin, avant, les gens, il n'y avait pas de photos, donc ils avaient des tableaux. Donc, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'en fait, pour moi, c'est très accessible parce que ça regroupe des choses qu'on aime aujourd'hui. C'est-à-dire, on aime les choses qui sont vivantes, on aime la comédie, on aime voir des choses originales et décalées. Et en même temps, apprendre. Enfin, en même temps, se divertir et apprendre. Bon, ça, depuis tout temps, en vrai. Mais là, ça fait comme un joli mix de plein de formats qu'on connaît. Et à la fin, la clé, c'est à la fois, je trouve, il y a beaucoup de désir aussi dans cette série parce qu'il y a quand même toutes ces représentations d'érotisme. Et je trouve, en les comprenant, on est plus attiré aussi par un tableau, on le trouve... je sais pas, il y a un désir qui vient. Cette femme qui est peinte, qu'est-ce qu'elle elle m'attire, quoi. Il y a quelque chose de beau en elle. Et puis, en même temps, ça nous remplit à fond la tête et nous permet, nous, ensuite, de se réapproprier. C'est ça, moi, la question que j'ai envie de te poser, Carole, c'est qu'est-ce qui fait que cette série, tu pourrais la recommander à des patients que tu as?
Déjà, je l'ai recommandée à pratiquement tout mon réseau amical. De base, ils ont tous reçu par WhatsApp, soyons clairs, pour qu'on arrête de dédramatiser ou de mettre des tabous sur la sexualité. Parce qu'en fait, on pensait déjà comme ça avant. Le fait que on apprend quelque chose, comme tu disais, Laura, on a un ancrage comme la Madeleine de Proust quand on regarde ça. Parce que c'est des tableaux qu'on a déjà vus.
Sont assez connus. Hein,
voilà, ouais. On a eu une émotion dessus, mais là, quand on voit ce que tu nous dis, je dis, ah ouais, ça me correspond. Donc, sur certains clichés de la nudité, par exemple, on a toujours un tabou sur le libertinage, mais quand on regarde, je ne sais plus quel épisode, le Jardin d'Éden, ça y était déjà le libertinage, alors ouais. Allons-y, quoi. On est, voilà. Donc, c'est aussi de dire aux gens, relax, quoi. Relax sur votre sexualité parce que on nous a mis des barrières par la religion, par des peut-être bien pensantes, mais avant on vivait déjà comme ça, alors on pourrait pas y retourner de temps en temps, ça nous ferait du bien.
C'est vraiment cette idée de décomplexer. C'était à la fois l'idée de la série de décomplexer les gens par rapport à ce qui pourrait être une grande culture. Ouais, je suis complexée parce qu'en fait, je connais rien, tout ça, ça m'appartient pas, c'est pas ma culture, c'est un truc bourgeois, machin. Donc, d'être hyper décomplexant là-dessus, que ce soit accessible, facile, et aussi de décomplexer par rapport aux pratiques sexuelles et aussi à ce qu'on pense être des tabous. Et on a généralement associé le passé au monde du tabou, justement, comme si c'était le poids du passé qui nous empêchait de délier nos langues. Alors que parfois, c'est le poids du présent. Et c'était ça un peu le petit retournement de la série. C'était d'aller chercher des leviers d'émancipation dans la peinture classique. Mmh. Ce qui, a priori, est quand même... on a toujours l'impression que c'est le truc le plus formaté du monde et qui va plutôt nous coincer. Et il suffit en fait d'aller au Louvre avec un enfant pour se rendre compte, parce que justement nous on n'y voit plus, on le voit plus, mais quand j'y suis allée avec ma nièce de 4 ans, elle a explosé de rire parce qu'en fait tout le monde est à poil partout, ouais. et nous on le voit plus, mais en fait
ils sont tous à poil,
ils sont tous à poil,
mais oui.
Et dans les tableaux classiques, en fait la question de l'érotisme, elle est permanente, et que ce soit dans les tableaux mythologiques dont c'est le seul sujet, ou dans les tableaux à sujet religieux, où la question de la carnation, de l'incarnation, etc., est omniprésente aussi.
Mmh. Puis les formes, tu vois, dans tous les tableaux, les femmes avaient des formes, les hommes aussi. On voit très peu d'hommes en érection dans tous ces tableaux-là. Et pourtant, maintenant, il n'y a que ça qui compte presque. Fais-moi voir ton sexe, mais en érection. Le complexe des hommes sur la taille de sexe, elle ne devrait même pas exister parce que tous ces tableaux, on voit toujours les hommes qui ne sont pas en érection. Les femmes sont plutôt rondes. Voilà, tout le monde est joli. Donc, ça donne une vision de l'art et de la sexualité en disant c'est bon, quoi. On se lâche.
On a le droit.
On a le droit.
Bah, c'était un peu le paradoxe du titre. Merci de ne pas toucher. C'était en fait, on a complètement le droit et de toucher les œuvres et d'avoir tous les désirs qu'on veut. Parce qu'en fait, sur les 10 épisodes, l'idée, c'était aussi un peu de décliner plusieurs types de sexualité qui peuvent être considérées comme, à tort, qui vont être considérées comme contemporaines, modernes, nouvelles, et de montrer à quel point toutes ces pratiques ne sont pas si nouvelles que ça, et elles étaient non seulement pratiquées avant, mais également sublimées dans les œuvres. Et après, l'avantage de l'art, c'est que au-delà de la question de la pratique, moi ça veut pas dire que je pratique toutes ces sexualités là, mais que un petit peu comme quand on regarde un porno, on peut être excité par une pratique qu'on ne pratique pas.
Mais tout à fait.
Et donc c'était un peu ça l'idée, c'est que j'ai quand même un peu sur les 10 épisodes décliné, c'est un petit peu comme des entrées avec des kinks comme ça pour un peu pour tout le monde, mais qui peuvent parler à tout le monde quoi.
Et oui, des entrées de fantasmes aussi. Enfin,
exactement.
C'est ça, c'est que moi ce que je trouve super dans ce que tu fais, c'est que par exemple la laitière, moi ça m'a vachement marqué parce que j'avais jamais vraiment j'ai jamais vu ce tableau comme quelque chose d'érotique alors que c'est un puissance érotique de malade quand on t'écoute. Et je me suis dit, waouh, ça nourrit l'imaginaire. Ça fait du bien, du coup, de relire parce que ça veut dire que, bah, en fait, moi, dans ma vie, j'ai le droit d'avoir un fantasme pour telle chose, telle représentation. Parce qu'on s'interdit beaucoup nos fantasmes. Alors qu'on en a plein tous les jours. Quand on voit quelque chose, on peut avoir du désir. Ça veut pas du tout dire de passer à l'action du tout, mais juste être. Être dans l'ardeur de quelque chose, quoi. Je vois quelque chose qui me fait du bien et je ressens du plaisir pour ça et donc je passe aussi une bonne journée et donc je fais du bien à mon intimité, quoi.
Ouais. Je trouve que c'est... Non, mais la laitière aussi, moi.
Ouais.
Sur la laitière. Là, la Madeleine de Proust de la laitière, elle était excellente. Et puis, ça montre aussi à un moment donné la femme, de la manière dont tu l'écris, elle était hyper OK avec son plaisir. Elle y allait, quoi. Elle se posait pas de questions. Que maintenant, c'est de se dire, ah non, mais attends, si je fais ça, je suis vraiment une salope. C'est comme ça qu'on me voit. Et dans tout ce que tu racontes, bah non, la femme, elle est au même niveau que l'homme. Elle est là pour son plaisir. Elle prend du plaisir et waouh, quoi.
Et ben justement, ouais, l'idée, c'était aussi dans chaque épisode permettre aussi de déconstruire un peu un préjugé ou de mettre en lumière un paradoxe. Et dans la laitière, c'était qu'en fait, la laitière peut très bien être à la fois le symbole de la mère et la putain. Et c'est que, bah oui, la laitière, c'est quand même bonne maman, le yaourt, les pubs de l'enfance, le petit goûter, et quelque chose de, ma foi, très, 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 très sympathique et convivial. Et en même temps, elle peut très bien être en train d'amorcer une partouze. Il y a pas de souci, en fait. Et c'est la même personne.
Ouais.
Et c'était assez beau de voir, justement, chez Vermeer, la très belle sublimation de cette espèce d'opposition un peu nulle de la maman et la putain, quoi.
C'est tous les puzzles qu'on a en soi. Enfin, j'ai l'impression, quand on regarde... Enfin, toutes les pièces du puzzle, pardon, qu'on a en soi. Quand on regarde, du coup, ta lecture de ces tableaux et comment tu le mets en scène, c'est en fait, pour reprendre la laitière, parce que c'est vrai que c'est un exemple très parlant, elle a plein de pièces. Il y en a plein qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas forcément mis la lumière dessus, mais qui existent depuis toujours. Et donc, c'est comme si toi, tu rassemblais enfin ces pièces un peu oubliées et invisibilisées. Et on avait enfin toute la vraie partie du puzzle. Et du coup, on comprend le puzzle. Parce que s'il manque des pièces, on ne peut pas le comprendre, en fait. Je trouvais un truc de ça.
C'est joliment dit. C'est chouette si ça fait cet effet-là. Mais tu vois, tu me parlais tout à l'heure de l'épisode sur Vénus.
Oui.
C'est un peu le même truc de la Vénus au miroir de Velázquez. Oui. Où en fait, j'explique comment une de ses inspirations pour renouveler la posture de la Vénus, Vénus, ça a pu être justement l'hermaphrodite endormie, qui était une sculpture antique et qui était à Rome et qui est au Louvre aujourd'hui. Et ben justement, cette question dans l'épisode de Vénus, c'est un moment de réinterroger la notion même de féminité,
ouais,
et de détacher la notion de féminité de la notion de sexe et de genre, et donc de dire que la féminité peut très bien être aussi portée par des hommes de naissance, et en fait, peu importe, et que la Vénus, et justement, c'est là-dessus que je conclue l'épisode, la Vénus est la déesse mère de toutes les féminités.
Et c'est fou parce que quand on voit aujourd'hui justement à quel point il y a énormément de transphobie, de personnes qui expriment leur genre et qui sont du coup remis en question par d'autres personnes, bah typiquement ce tableau-là que tu expliques, ça doit faire énormément de bien à voir parce que c'est bah en fait j'existe, j'ai le droit d'exister et j'existais avant. Donc c'est pas nouveau en fait ce que je ressens et ce que je suis.
Bah j'espère que ça fait ce sentiment-là. Ouais. Et après, de manière très personnelle, c'est aussi que moi par exemple, j'ai abordé la féminité avec mes amis gays. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu une construction de ma propre féminité par Dalida et Mylène Farmer et les copains PD. Et donc finalement, c'est pas parce que moi je suis née femme que cette question-là de la féminité était beaucoup plus évidente pour moi et qu'il m'a fallu ce détour. Et donc moi, les gens les plus féminins que je connaisse, eh ben, c'est mes potes drag queen ou vogueurs, ouais, en fait. Et donc c'est en fait ça fait partie de ces espèces de vérités sensibles qu'on a en fait qu'on peut constater dans notre quotidien.
Oui, c'est se dire moi ma féminité c'est ça pour moi. Mais je comprends que pour quelqu'un d'autre, ce soit autre chose, en fait, puisque vu que c'est de l'intime et qu'on a tous et toute une intimité différente, bah, on a le droit de la construire comme on veut. Enfin, c'est...
Ce genre de... C'est rassurant, je trouve. Que
ouais.
De voir ça, c'est rassurant. Ça... Parce que tu vois, en sexualité, on nous demande toujours, la question qu'on me pose toujours, c'est normal ou pas normal ? C'est une question qu'absolument pas on peut répondre ni oui ni non. C'est qui vous Bien êtes, sûr. Qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être ? Comment tu veux vivre ton plaisir, ton érotisme. Et voilà, chacun a sa réponse, quoi. Et dans ce que tout ce que tu as fait, c'est dire, bah, allez, vous allez chercher votre réponse quelque part. Ou regardez les 10 et après vous reverrez. Non, parce que le gros sujet aussi, c'est l'infidélité. L'infidélité, c'est bien, c'est pas bien. Mais je réponds toujours aux gens. Depuis la nuit des temps, les gens sont infidèles. Donc, on n'a rien réinventé et comment ils vivaient, comment on a envie de le vivre. Et c'est vous qui avez les réponses.
Complètement. Mais quand tu disais la notion de normal, c'est aussi la notion du coup du bizarre, de se considérer comme bizarre. Et c'est là où là, toute la pensée est queer, on va dire, est un peu aide à,
bien sûr.
À dépasser cette question-là du bizarre et de se dire, bah, n'est pas bizarre qui le croit. Et donc forcément... il y a cette notion-là justement par l'homosexualité, etc. Mais bien au-delà, moi par exemple, je trouve que c'est par exemple en discutant avec des copains qui sont en fauteuil roulant et justement de parler de sexualité et des gens qui sont hétéros que j'ai eu accès aussi à une version encore plus queer que ce que je connaissais de la sexualité. Et donc la notion de queer va au-delà de la question de l'homosexualité, en fait. Et donc le bizarre, il est d'une relativité
ouais,
énorme
ouais.
et que moi, bah, c'est des potes hétérosexuels qui m'ont raconté les histoires que moi j'ai trouvées les plus dingues et qui n'ont pas besoin d'une formation de 3 semaines de tantrisme pour savoir comment éveiller tous les sens, quoi, et dépasser des stades de plaisir que nous on connaît même pas. Enfin, ouais. Je sais que ça m'a beaucoup animé aussi pour faire cette espèce de catalogue le plus ouvert possible.
Ouais, je pense que c'est ça qui résume parfaitement ce que tu as fait avec cette série. C'est que, pour moi, tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Alors, bien sûr, c'est infini, les représentations de l'érotisme, de la sexualité, son intimité, c'est à l'infini. Mais je trouve que dans chacun des tableaux, dans chacune de tes performances, il y a de soi, quoi. Ou en tout cas, peut-être parce que vu que c'est merci de ne pas toucher, donc j'ai le droit de toucher, et bah, tout le monde se dit « bon, bah, ça pourrait être moi ». Ou ça pourrait être une petite partie de mon intimité, quoi.
Je pourrais avoir envie d'essayer ça.
Ouais. Bah oui. Et ou même sans l'essayer, ça pourrait m'exciter.
Exactement.
Il y a un truc un petit peu comme ça, c'est que on peut très bien avoir une sexualité, une pratique tout à fait traditionnelle ou monogame ou je ne sais pas, et en même temps avoir un imaginaire. C'est un peu ça que j'évoquais dans l'épisode sur l'EDA et le signe, et qui est un épisode un peu sur la masturbation justement solitaire. Ouais. Donc quand on est chez soi et qu'on mate des vidéos et qu'on ne sait pas très bien à quel moment le désir à un moment est né, au détour peut-être juste d'un geste quotidien ou quoi, tout d'un coup, baf. On sent qu'on est excité, donc on va aller chercher une vidéo qui va nous exciter. Et là, c'est la fête du fétichisme. Enfin, là, chacun va regarder ce dont il a besoin pour s'exciter tout seul, quoi. Et ça va du mukbang où il y a des gens qui mangent du poulet et il y a des gens que ça excite, et puis à chatroulette ou j'en sais rien, quoi.
Ouais, il y a une infinité de choses et c'est la ce qu'il faut, même si c'est une injonction de dire ce qu'il faut. Mais en tout cas, dans le meilleur des mondes, ce serait de s'autoriser en tout cas à aller là où on veut. C'est-à-dire, moi, j'ai tel plaisir. Par exemple, moi, je pense toujours au Dirty Talk qui a été hyper, longtemps critiqué du style... Par exemple, dans l'hétérosexualité, tu peux pas être féministe et aimer que ton mec te dise que t'es une chienne. Bah, en fait, ça n'a aucun rapport, en fait, entre les revendications que je porte en moi et puis un vocabulaire ou un imaginaire qui va m'exciter et que j'ai envie d'avoir. Enfin, il y a... Je suis partie un peu loin, je sais plus ce que je voulais dire, mais il y a toutes ces notions-là, quoi.
Non, mais complètement. C'était un petit peu ça l'idée, ouais. C'était de pouvoir distinguer la question de pratique et la question de la représentation. Et puis, dans un sens comme dans l'autre, par exemple, dans l'épisode Olympia de Manet, où l'idée, c'est que on a tous un peu appris ou entendu parler de ce truc que ce serait une prostituée.
Ouais.
Et que donc elle est nue, elle reçoit la demande d'un client à travers le bouquet que lui amène sa domestique, et donc cette espèce de regard qu'elle jette au spectateur, c'est un espèce de regard de défi et de un défi qui serait celui de la paria sociale, on va dire, qui serait la prostituée, et avec un très très fort, pour le coup, un très fort kink des inégalités, c'est-à-dire de se dire que la prostituée serait une espèce de, quand même, de pestiférée sociale, qui elle-même aurait en plus une servante qui serait comme donc un cran en dessous. Et donc il y a une espèce de truc où, comme si cette espèce de rapport hyper inégalitaire était censé participer de l'excitation que nous provoque ce tableau. Et tout d'un coup, lorsqu'on prend le tableau un petit peu juste par d'autres entrées, et notamment les données des archives qui nous disent que, en fait, la modèle, elle n'est pas réellement prostituée. En fait, elle, c'est une artiste intellectuelle lesbienne qui vit dans un pavillon de banlieue avec sa femme qui est pianiste et qu'elle donne des cours de guitare. C'est pas glam, glam. Et que la servante n'est pas une servante, mais elle habite rue de Vintimille, elle s'appelle Laure. Tout d'un coup, ça devient juste des voisines de quartier, en fait, du peintre. Et donc, c'est là où moi, j'en extrapole le fait de se dire qu'en fait, et peut-être même, c'est juste un espèce de couple tout à fait lambda et tout à fait égalitaire, justement. Et tout d'un coup, de dire, et si ce rapport égalitaire entre... le spectateur et ces deux femmes pouvaient aussi être objet de désirs et de fantasmes. Et en l'occurrence, là, c'était juste une projection très, très personnelle, mais que il y a une dizaine d'années, la première fois que j'ai lu que Victorine Meurent, donc la modèle, était en fait pas du tout prostituée et qu'elle était même lesbienne ou quoi, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça dans son regard. C'est effectivement un regard de défi, mais c'est un regard de défi qui est tout autre. » Et qui, moi, personnellement, m'excite beaucoup plus. Et ça m'excitait beaucoup plus de m'imaginer qu'en fait, la servante n'était pas sa servante, mais était sa meuf, et qu'elle était juste en retard et qu'elle lui avait ramené des fleurs. Et que, voilà. Et donc, je pense que tous ces renversements-là, qui sont des renversements d'idées reçues, sont importants à souligner. Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il y a ces représentations-là. Il y a celles qui sont véridiques et qu'on va retrouver via les archives. Et puis il y a celles après que moi je vais rajouter. Parce que c'est ça aussi le but de la représentation, c'est de me nourrir tout mon imaginaire et de le retranscrire ensuite en moi, quoi.
Complètement. Et je crois que l'art sert à ça aussi. C'est-à-dire que, je sais pas si vous, dès qu'on va visiter Versailles ou un château ou quoi, il y a tout le temps plein de gens. Et moi, la première, enfin, on se dit, ah, tiens, ce serait pas mal, ça, dans le salon. Ou,
oui.
Ah, tiens, ce serait marrant, ça, comme ça. On fait un peu tout ça. Et moi, je fais ça grave. Et dans les musées aussi, j'ai vraiment ce truc de, je regarde un tableau et je dis, putain, il ressemble à machin, lui. Enfin, ou, ah, oh, ça me rappelle le jour où, machin. D'avoir un rapport comme ça hyper intime et hyper d'une projection qui n'a rien à voir avec, avec une histoire
oui,
panthéonique ou quoi, tout d'un coup d'y mettre son petit truc à soi. Et que son petit truc à soi, bah, si tout d'un coup je vois un Hercule ou je ne sais quoi et que j'ai envie de me projeter là-dedans, et bah, j'ai le droit de me projeter là-dedans.
Ce serait approprié, ouais.
Ouais, puis ça, tout ce que tu décris là, c'est en fait tout ce qu'on tente de décrire aux gens qui nous disent « j'ai pas de fantasme ». Il y a beaucoup de gens en sexualité, quand ils ont une perte de désir, de plaisir, ils n'ont pas de fantasme. Et c'est d'aller à la recherche du fantasme. Et tout ce que tu dis par l'art et tout ça, par voir Hercule, c'est ça, ça commence là, le fantasme. Ça commence aux plus petites choses qu'on voit, de se dire « Ah, je vois ça, mais ça me fait penser à ça, et ça me procure du désir, du plaisir. » Et donc, bah, qui regardent ta série, ils auront encore plus de fantasmes, tu vois, d'imaginer que leurs voisines, leurs voisins, qu'est-ce qu'ils font en plus en temps de confinement, ils vont boire pas que l'apéro. Et ça commence là et tous ces supports doivent nous donner justement de développer ces fantasmes et arrêter aussi de regarder trop de porno pour se dire on développe nos fantasmes, ce qui n'est pas le cas. Mais ce que tu nous as fait vivre là, ça développe effectivement tous nos fantasmes.
Parce que ce que tu dis, c'est vrai que ça a souvent qu'on pose la question de c'est quoi pour toi la sexualité, enfin, de manière générale, les sexualités aussi. Et j'ai vu que tu avais dit que c'était un moteur pour apprendre. Alors, je ne sais pas si c'est ta définition entière de la sexualité, mais est-ce que tu peux raconter aux personnes qui nous entendent ? Parce que je trouve que chacun a sa définition de la sexualité, mais c'est intéressant d'écouter celle des autres pour aussi nourrir la sienne.
La sexualité dans le sens de désir, c'est en ça que je voulais dire que ça pouvait être un moteur pour apprendre. C'est que, de toute façon, c'était à travers la notion de curiosité. Et je crois qu'en fait, pour apprendre, il faut être curieux. Et pour être curieux, il faut avoir envie d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Enfin, donc, c'est un peu bizarre. C'est comment ça se fait qu'on aurait du désir pour un objet qu'on ne connaît pas encore ? Et ben, je crois que ça, c'est de la libido pure, quoi. En fait, d'avoir une tension vers. Mmh. Et donc, la notion sexuelle nous permet souvent de nous mettre dans un état qui est un état de tension vers, et donc on va avoir une espèce d'appétit et de curiosité pour aller chercher encore plus loin.
Ah, c'est magnifique comme...
Ouais, parce que c'est cette notion de fantasmer la situation qu'on connaît pas, on va l'imaginer, et du coup ça rend encore la chose de dire « Waouh, qu'est-ce qui va se passer sur cette découverte ?» Et moi j'apprécie effectivement tout ce que tu dis, parce que souvent, je dis, parlez de votre sexualité, passez par votre sexualité, parce que vous allez vous connaître. On se dit, ouais, faut qu'on apprenne à se connaître. Non, mais si déjà tu connais ta sexualité, après, tu pourras te connaître. Je prends un exemple tout simple. Plein de gens, on rencontre, je ne sais pas dire non. Si dans ta sexualité, tu apprends à dire non, que tu es en couple et compagnie juste pour... juste pour dire non, là je sens que j'ai pas envie, ou non, cette position c'est pas ce soir. Après, tu pourras le dire dans d'autres choses, avec tes collègues de travail, sur un projet qu'on te donne. Et donc, je trouverais intéressant que les gens commencent à se dire ouais, je vais aller voir ce qui se passe dans ma sexualité pour après mieux me connaître.
C'est hyper intéressant. Moi, j'ai commencé ma journée par ma séance chez le psy. Ça résonne grave ce que tu dis là. Ah oui, carrément.
Ouais, j'aime bien cette notion de... Par... Et en plus, c'est tellement logique quand tu le dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, si on n'est pas OK avec son intimité, comment est-ce qu'on peut l'être dans la vie publique ? Enfin non, mais j'exagère. Mais oui, dans la vie avec les autres, si déjà, soit on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, ou en tout cas à savoir qui on est, quoi.
Exactement. C'est délicat. Et du coup, on reste encore... Les gens, ils arrivent au cabinet, ils disent, oh, je ne sais pas par quoi je peux commencer. Bon, allez-y, on commence.
Pas où tu veux.
Mais voilà, c'est encore tout est tout tabou, tout est fermé. Donc c'est pas, c'est non, mais ouvrons. Donc le genre de série que tu fais, ça ouvre le champ du possible.
Mais justement, c'était une des choses dont je m'étais rendu compte pour écrire l'épisode sur l'origine du monde.
Ah oui.
Tu vois, qui est en fait le seul tableau qui est ouvertement, on va dire, qui parle, enfin qui de sexe très clairement. Les autres, on est plus dans un truc où on va aller chercher. Mais bizarrement, c'est celui aussi qui est le moins érotique. C'est à la fois le plus cru et celui qui ramène tout tellement à une chose très 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 frontale justement et qui est presque défantasmagorique au possible, qui se veut plus réaliste que le réel. Et donc l'idée était de présenter ce tableau dans un salon d'épilation, et en partant de ce truc, il n'y a rien de plus banal et de moins sexy que juste s'épiler la chatte, quoi. Et pourtant on est dans le cœur du sujet.
Ouais.
Et pourtant, c'est pas hyper bandant, quoi. Et donc je suis allée chez une esthéticienne parce que d'habitude moi je m'épile la chatte moi-même, mais du coup là je me suis dit, pour écrire ce justement, j'utilise ce moment-là comme un truc très personnel de j'ai besoin de me retrouver. Et donc quand j'ai besoin de me retrouver, je fais ça, je me mets un truc de Deleuze ou de Foucault et puis je m'épile la chatte pendant une heure. Et là je me suis dit, pour écrire la série, je vais aller chez Body Minute et je discute avec l'esthéticienne, et l'esthéticienne me raconte, je lui dis, vous avez pas des histoires un peu marrantes ou quoi? Elle me dit, il y a un truc qui est quand même très marrant, c'est que on ne nomme jamais le sexe. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode « Appelons un chat », parce qu'en fait l'esthéticienne me disait, en fait, par exemple, j'épile, et puis si je dis, des fois vous faites des gommages sur cette zone-là, et elle me dit qu'elle montrait avec son doigt et en disant cette zone, mais que le mot n'était jamais prononcé. Et donc il y avait un truc de rapport au corps justement, et dans le fait d'être OK avec son propre corps, et même dans un truc très très intime qui n'était pas du tout évident.
Et une énorme pudeur.
Le nombre de jeunes femmes qui encore aujourd'hui n'ont pas été explorer leur vulve, qui savent pas alors où est le capuchon du clitoris. Prenez une glace, allez voir.
Ça fait 2 ans que Carole le crie au micro. Prenez une glace.
Regardez-vous, aimez votre sexe.
C'est ça. Le truc de cet épisode, c'était un petit peu ça. C'était de revenir à quelque chose d'extrêmement concret et justement très, 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 très banal et très simple, en fait. Et très, très centré sur soi.
Oui, parce qu'il faut c'est primaire, déjà commencer par soi.
Oui. C'est super important, ça. Centré sur soi.
Oui.
Tout cas, on souhaite que... Je pense que là, ça a pas mal intrigué, j'espère en tout cas, les personnes qui nous écoutent. On a pu évoquer pas mal des épisodes. Il y en a 10, c'est ça, je rappelle, 10 épisodes. Donc, allez surtout les écouter. Et puis, merci infiniment, Hortense, parce que je crois qu'on a parlé de tas de choses qu'on n'avait peut-être même pas préparées, mais parce que chacun des tableaux que tu as explorés permet d'explorer encore autre chose. Donc, c'était hyper enrichissant. Donc, merci vraiment d'être venu... au micro. Nous, on va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, des messages, des étoiles sur Apple Podcasts, ça nous fera toujours plaisir. Et puis surtout, vos retours en DM sur Instagram, avec grand plaisir, on y répondra avec Carole. Merci beaucoup.
Merci à vous infiniment.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Ground Control en partenariat avec le magazine Cosette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.